Radio Campus, il est 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même, François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Dominique.
Salut à tous.
Et nous avons deux invités autour de la table avec Dimitri.
Salut.
Et Greg.
Bonjour à tous.
Alors Greg, quel numéro 4, c'est ça? Je vais te mettre du son,
bon,
ce sera
micro,
mieux.
Ouais, numéro 4, ouais.
Décidément, à chaque fois qu'on a la forge ludique, un petit problème de micro démarrage. Alors, on a reçu des membres de votre association il y a de ça un peu plus d'un an.
Plus d'un an,
l'année dernière, ouais.
C'est un peu un anniversaire pour nous, puisque lorsqu'on a accueilli la forge ludique, c'était la première émission sur le ce créneau de 18h-19h sur Radio Campus.
Exactement.
Que vous avez inauguré avec nous. Alors,
j'espère que vous avez ramené un gâteau.
On pourra s'arranger ça, mais si c'est pas moi qui le fais, ça devrait bien se passer.
Effectivement, puisqu'on va parler de Hammer Time, le festival de jeux de figurines et jeux de société. On avait reçu donc les invités de l'année dernière. C'était la première édition, aujourd'hui la deuxième. J'ai envie de dire presque un peu surprise.
Ouais, tout à fait.
Surtout vu la situation en ce moment, tous les festivals annulés, etc. C'est un miracle quand on arrive à trouver un festival. On a parlé régulièrement, on a fait des chroniques sur des festivals qui se passaient sur Internet, des festivals un peu virtuels, qui se passaient sur Discord. C'était très bien, c'est super intéressant, c'est passionnant. C'est gratuit en plus, c'est pratique. On peut rester chez soi en pyjama et jouer à tous les jeux qu'on veut. Mais là, j'ai dit, non, un festival en plein cœur de Lille, en plein Covid, mais ils s'en foutent ces gars-là, mais ils vont le faire.
Oui, alors on va le faire. Évidemment, il y a des ajustements. C'est un environnement particulier. On a longtemps hésité pousser ou pas pousser, parce qu'il y a quand même un enjeu financier pour l'association. Il y a aussi mobiliser tous les partenaires. Enfin, ça demande quand même du travail, de la ressource.
Et le public.
Voilà.
Et puis,
alors, il y avait aussi cette notion de public qui répondrait ou qui répondrait pas. Il y avait aussi la volonté, à un moment qui s'est vite installé dans le dialogue associatif, de permettre aux assos de perdurer. Et puis aussi au fait que le Hammer Times vient de démarrer, et on sait qu'une édition qui ne se fait pas, c'est remettre quasiment le compteur à zéro. Enfin, la plupart des gens qui vont organiser le festival vous diront, s'il n'y a pas de récurrence, il y a une perte de l'audition, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire que si on n'est pas annualisé...
Pour le festival lui-même, mais
pour
aussi
le
pour le public.
Lui-même.
On l'a entendu hier dans l'émission sur Radio Campus Cinéma. Ils insistaient, c'est une émission où ils parlent des films qui sortent. Mais même si les films sont mauvais, ils ont envie de dire aux gens, allez au cinéma quand même.
Oui, bien sûr.
On ne va pas dire que le film est mauvais, allez le voir quand même. On vous incite, allez au cinéma, pour les cinémas, pour aider les cinémas, etc. Allez voir et allez jouer, tout simplement.
C'est donc un peu le même donc la réponse là-dessus, ça a été de dire, compte tenu de tous les facteurs, les plus et les moins, il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas faire le détail, mais contre vents et marées, voilà, ça se fait. L'ajustement principal, c'est masqué. C'est une édition qui sera masquée. Évidemment, il y aura tous les dispositifs gel hydroalcoolique, voilà, qu'on peut trouver. Derrière, on va privilégier aussi les démos longues. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un turnover un peu moins important sur les démos assises. On a aussi des tables de démos qui seront mobilisées uniquement pour faire de l'expo. Donc, quelque chose de... voilà. Où on ne va pas inciter les gens à toucher le matériel. Voilà. Il y a aussi
on
ça.
On touche avec les yeux, comme on dit aux enfants.
Alors, ça ne sera pas zéro démo. Hein. Vous pourrez quand même jouer, mais il y aura des ajustements. On vous demandera certainement du gel hydroalcoolique. Enfin, on vous le demandera, ils seront fournis. Voilà. Donc, tout ce dispositif-là, il est mis en place. Pour gagner également aussi un peu de distance entre les tables, cette année, ça sera sans tournoi. Il n'y a pas de tournoi. On avait programmé 3 tournois l'année dernière. Et surtout, grosse news, le festival, la convention, plus exactement, ne sera pas sur une journée, puisque l'année dernière, on était ouvert au public sur un jour.
C'est vrai.
Eh oui, on était ouvert qu'un seul jour. Il y avait une journée qui était réservée aux assos, qui était le off, en fait. Qui était
ou aux privilégiés.
Ou aux privilégiés, parce que c'était des ateliers modélisme sur réservation, etc. Là, on a revu la formule différemment. L'objectif, c'est quand même le partage vers le néophyte, de faire découvrir la passion. C'est, ça reste la quintessence et l'ADN du Hammer Time. Donc, on sera ouvert au public deux jours, samedi et dimanche, dès 10h, donc 10h-20h. Les deux jours. Donc voilà. Donc c'est surtout ça la grosse news en fait. Hein. On est ouvert deux jours au public.
Voilà. Et c'est gratuit.
Et alors ça, ouais, j'y viens après. Ouais.
Déjà, pose la question. On n'a même pas dit quand c'était.
Alors c'est le 12 et 13 septembre 2020. Ça se trouve à Lille, salle du gymnase, comme en face du théâtre Sébastopol. C'est la même
très
salle.
Simple à trouver.
Voilà. Donc c'est assez simple à trouver. On n'est pas loin de la place de la République.
Si vous êtes un peu perdu dans Lille, vous écoutez les cris, vous suivez les manifestants. À un moment, ils vont passer par loin.
Alors, ils passeront par là le samedi. Alors, d'ailleurs, c'est important de le dire, sur la première édition, c'était déjà le cas.
C'est vrai.
Donc, c'est dire la durée du mécontentement.
Comme quoi, le jeu de société, le jeu de plateau s'inscrit dans l'actualité sociologique de la France.
Exactement. On est vraiment là-dedans.
Donc, juste un conseil, espérez pas vous garer, ou même si vous pensez vous garer, si vous aimez votre voiture, ne la garez pas trop près du festival. Venez en métro.
Alors, le meilleur des conseils, si vous êtes, on va dire, conditionné à la voiture pour venir nous voir, ce qui peut arriver, hein, parce qu'on a quand même eu des questions des gens qui venaient de Paris et puis d'autres régions, c'est de vous garer place de la Nouvelle Aventure. C'est ce que vous devez taper sur votre GPS. Donc, en gros, c'est le marché d'Oisem, pour ceux qui connaissent un peu. Le samedi, c'est pas très loin, et à vol d'oiseau avec votre Google, vous êtes à 650 mètres de la salle, ce qui est quand même pas l'énorme effort à faire à pied. Après, plus proche encore, il y a le métro.
Voilà.
Voilà.
On y a combien de dés de déplacement
Alors le mouvement aléatoire.
Est-ce qu'il faut prendre sa réglette pour venir jusqu'à la salle?
Alors si vous venez justement la réglette, je vais rebondir. Hein, je vais faire les choses dans l'ordre. Je vais rebondir sur ce que tu me poses comme question. J'avais promis une exclusivité pour Radio Campus. Voilà. J'avais promis une exclusivité pour Radio Campus puisque vous nous avez accueillis gentiment l'année dernière. Et cette année, le Hammer Time, on est sous le signe des goodies. C'est-à-dire qu'on a voulu une édition vraiment goodies, donc tous les accessoires de jeu, et puis surtout pour que les gens qui viennent nous voir
les
repartent.
Bien ça en plus.
Voilà. Les joueurs, ils sont assez friands de ce genre de petits gadgets, dire ouais, moi j'y étais. Voilà. Alors, en gros, c'est un peu boutique souvenir, mais on ne veut pas que ce soit uniquement du souvenir, on veut que ce soit allier l'utile à l'agréable. Donc je vous ai ramené ça. C'est une réglette qui sert à mesurer la plupart, je vais même dire presque 100% des distances des jeux de figurines, qui adopte la forme d'un marteau. Donc merci à Pierre Caillot, donc Vonimac, qui nous a fait le magnifique design de ça. C'est une collaboration avec la société MyScenery, que vous pourrez trouver sur le Hammer Time. Et donc je vous ai ramené ça. Je vous propose de vous la donner à celui que je sais être un joueur de figurines. Je pense que c'est lui qui sera le plus intéressé par ça.
C'est lui qui a gardé les figurines du club.
Oui, c'est vrai, l'année dernière, on avait une magnifique figurine peinte. Et en parlant de figurines, il faudra qu'on en reparle, c'est vrai, il y a un concours, il y a toujours les ateliers de peinture de figurines, on peut s'initier à la peinture de figurines, et il y a un concours cette année en plus.
Alors il y a trois choses sur la figurine, on continue sur les goodies, donc on a produit en collaboration avec l'association des canonniers de l'Ambersart et TGCM, une figurine exclusive sur le Hammer Time 2020, donc une figurine que vous avez pu découvrir sur les réseaux sociaux, qu'on a baptisée Hammer Chris. Pourquoi on l'a baptisée Hammer Chris ? Parce qu'on a quelques filles à l'association et elles s'appellent toutes Christelle. Donc ça s'imposait comme nom, donc Chris et Hammer. Donc Chris Hammer, ça sera la première figurine du Hammer Time. Donc un petit clin d'œil à nos membres féminins. Et donc cette collaboration, en fait, ça a donné naissance à une belle figurine en 28 mm que vous pourrez acheter sur la plateforme de la Forge Ludique, que vous pouvez recevoir. Bon, là, il ne reste plus beaucoup de jours, si vous vous dépêchez, on fait une nouvelle vague d'expédition lundi. Donc, normalement, vous devrez la recevoir mercredi. Ça vous laisse encore 7-8 jours pour la peindre. Et bien, la déposer au Hammer Time et on donnera un prix spécial pour la meilleure peinture. Mais attention, sur cette année, le prix de peinture, ce n'est pas un jury d'experts. C'est-à-dire qu'on va faire voter les enfants donc, qui ont leurs propres critères d'appréciation.
Ah, très intéressant.
Donc, à savoir que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était sur un concours de petites voitures custom à la sauce Mad Max. Le critère qui a été retenu, c'est dans un univers post-apocalyptique, une voiture qui n'a pas de phare ne peut pas survivre. Et donc, celle qui a gagné, c'était la seule voiture qui avait des phares géants. Donc, C'est pour vous dire que c'était notre jury a l'œil quand même. Ça a beau être des enfants, ils ont l'œil. Quoi. Voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les critères soient ceux qu'on peut voir à Sèvres ou ailleurs. On sera, mais quand même malgré tout, sur un véritable concours avec un véritable jury qui donnera donc un prix, puisque c'est Cromlech, une société qui nous a donné des diplômes. Hein. Dim, je vais te passer la parole parce que c'est, je parle beaucoup.
Du coup, ouais, le partenariat avec Cromlech pour la peinture, en fait, on l'a décroché. C'est une société polonaise qui fabrique des figurines alternatives. Mmh. L'année dernière, ils nous avaient donné les figurines pour le concours de peinture. C'est des figurines d'orques. Et là, cette année, bon, avec le Covid, etc., ils m'avaient dit, je me suis entretenu avec eux par mail. Et en gros, ils ont dit oui, on ne peut pas envoyer de figurines, etc. Mais ils voulaient faire quelque chose quand même. Donc, on a des magnifiques diplômes. Et il y a un bon d'achat de 15 euros sur le site Bits of War où on peut acheter les figurines de Cromlech, justement.
Tout à fait.
Voilà.
Donc ce partenariat-là avec Cromlech, en fait, il sera double. On fera un concours catégorie, on va dire, adulte, parce qu'on n'aime pas le côté master, etc. Voilà, on voulait décloisonner un peu tout ça. Donc, une catégorie, évidemment, adulte, et puis une catégorie enfant. Donc, vous pouvez venir peindre durant le Hammer Time la figurine Hammer Chris. Vous serez accompagné pour ça, comme l'année dernière, par les canonniers et par la forge ludique, puisqu'on va mettre à disposition 6 bénévoles qui seront là pour vous donner des conseils, quel que soit votre niveau. J'insiste beaucoup là-dessus, puisque ça peut être un perfectionnement sur une technique assez poussée. Hein. On a des gens qui viennent nous voir, ah, moi je veux travailler que le cuir, je veux travailler que la peau, ou alors être des débutants complets. Et cette année, on utilisera de la peinture Prince Auguste. Donc, voilà. Donc c'est Prince Auguste qui nous a permis de tenir le stand. Donc on a quand même réussi à avoir pas mal de beaux partenariats, parce que Prince Auguste, c'est quand même, on va dire, voilà, c'est une des Rolls au niveau peinture de figurines. Donc derrière, voilà, on repropose ce service-là sous une autre forme. Parce que la première année, on avait fait des ateliers thématisés avec réservation. Enfin, la formule était tellement, on va dire, brodée et fine que je crois que les gens n'ont pas bien compris ce qu'on voulait faire. Donc, du coup, on a simplifié tout ça. On a dit, il y a de la place, installez-vous. On vous épaule pour peindre votre figurine sur une session d'une heure, une heure et demie. On aura des places réservées à ça. Voilà. Et ça sera les canonniers en tête et notre asso qui pilotera ça. Et évidemment, on retrouvera les challenges fil rouge, speed paint.
Et Francis Mini aussi.
Alors oui, alors Francis Mini, donc qui est un youtubeur belge, je ne sais pas si vous situez un peu.
Oui. Qui est venu l'année dernière.
Qui est venu l'année dernière, voilà.
Et qu'on a pu suivre en direct lors de ce festival.
Donc là, on remet le couvert, il sera là à nouveau. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il était perdu dans le warp ou tombé dans un tonneau de Beauval. Mais rien à faire, nous on était le chercher avec notre pince de forgeron au fin fond du seau. Donc comme on l'avait tellement martelé sur l'enclume, il était chaud bouillant, donc on a dû refroidir pendant un an. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la deuxième trempe. Donc il revient nous voir.
L'année dernière, il s'était fixé un challenge. C'est
exactement.
Ce qu'on appelle une armée entière, si j'ai pas de bêtises, sur la durée du salon.
Sur la durée du salon. Donc là, on va faire moins lourd parce que il est en convalescence, hein, il sort du seau. Donc on va faire un starter box Edge of Sigmar, qui est monté, qui est prêt et qui l'attend. Et donc il sera en live pour ça sur toute la journée du samedi. Donc c'est l'occasion d'aller lui lisser ses moustaches si vous voulez le voir en live peindre, et vous pourrez le découvrir sur sa chaîne directement. Voilà. En même temps, il sera en double live en fait, en live au Hammer Time physiquement et puis en live sur sa chaîne.
Alors, on parle de live. L'année dernière, on a eu droit à une animation animée par toi-même, Dimitri.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, je pense, si je ne m'avance pas trop, c'est quelque chose que tu as proposé lors de la Forge Ludique, lorsqu'ils ont créé le Hammer Time. Tu as dit, tiens, moi j'ai cette envie de proposer une animation où on pourrait découvrir en vidéo et éventuellement en direct.
C'est ça, ouais. En fait, c'est venu vraiment en impro. Faut le dire, hein. Franchement, ça a été un peu de l'impro l'année dernière. On avait un bras gyroscopique pour tenir le téléphone et faire des lives en direct. Et je me suis dit, il faut vraiment retranscrire ce qui est en train de se passer. C'était une première, donc il fallait qu'on filme l'événement. Et donc, petit à petit, je me suis dit, je vais essayer de m'inspirer un peu de ce qui se faisait quand même. Il y a certains youtubeurs qui font pas mal de lives sur les salons. J'ai voulu faire à peu près la même chose. Et au final, j'ai tenu les deux jours. J'ai retranscrit les deux jours du Hammer Time de l'année dernière. Et cette année, par contre, on s'est un peu plus préparé. On a une vraie fiche de route, etc. C'est un peu plus cadré. Et on va faire la même chose, mais là, on va essayer d'interviewer tous les gens en direct. Donc, si les gens ne peuvent pas venir au Hammer Time, eh ben, ils peuvent nous suivre sur le Facebook de la Forge Ludique. Et donc, suivre l'événement, voir les intervenants, etc. Voir tous les exposants. Par exemple, tu parlais de My Scenery, Greg. On va l'interviewer. Alchemy, les gens d'Arakan qui étaient déjà venus sur vos ondes. On va les interviewer aussi, on va voir où ils en sont dans leur jeu. Enfin voilà, on va faire le tour, on va essayer aussi de faire parler les gens qui viennent au Hammer Time aussi, et voilà.
Alors pour parler d'Arakan vite fait, c'est vrai qu'ils sont venus l'année dernière, et on les a rencontrés du dimanche, puisque nous on est venus...
On les a rencontrés le samedi.
Samedi, c'est ça.
Et on leur a dit, vous faites quoi demain à 18h? Ah bah on range nos affaires, on remballe les affaires du festival. Écoutez, si on a 2-3 qui sont dispo, puis ils sont venus à l'émission. On a fait une super émission pendant une heure.
Et c'est vrai que c'est un projet assez ambitieux. C'est plus qu'un jeu de société. C'est carrément un univers qu'ils créent avec des
audiobooks.
Alors, avec c'est des audiofilms.
Les audiofilms.
Voilà.
Exactement.
Je savais qu'il y avait un piège. Audiofilm, un jeu de société qui, pourquoi pas, hein, cet univers promet à grandir énormément.
Et ils reviennent cette année au Hammer Time.
Exactement. Mm. Donc là, ils seront normalement équipe complète, enfin sous réserve, mais ils seront au moins 3. Et donc on retrouvera architecte, archiviste, musicien de
Arakan. Ce week-end, ils étaient à Orléans, parce que ce n'est pas le seul. Il y a quand même d'autres festivals qui se déroulent en live. Ce week-end, il y a eu Orléans Joue, qui est un festival qui a lieu depuis quelques... Je crois que c'est la deuxième, troisième année, je ne sais plus. Où c'est un festival. Et celui-là aussi a lieu en direct, sur place, en vrai.
Oui, en vrai. Ça fonctionne encore.
Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour parler d'autres événements dans l'agenda, ou... C'est vrai que l'agenda se réduit, et c'est pour ça qu'on est heureux de vous avoir parmi nous, puisque ça devient assez rare et difficile de créer ce genre d'événement. Alors vous, c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, Greg, comme c'était la première édition, c'était dommage de zapper la deuxième alors qu'on... Oui. On profitait un peu de l'engouement de la première. Alors, est-ce que vous avez vu dans la Forge Ludique, après ce Hammer Time, des gens qui sont venus plus curieux, ou l'association a continué d'elle-même comme
auparavant ? Alors, on n'a pas doublé d'un coup d'un seul nos membres. Ça, c'est pas le cas. On touche déjà un public soit de néophytes complets, qui a une difficulté à rentrer dans l'environnement associatif, qui juge comme étant un environnement d'experts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut complètement décloisonner. C'est-à-dire que je suis un néophyte complet, j'ai pas de figurines, je connais pas le jeu. C'est un public qu'on a rencontré durant le Hammer Time. Alors que dans l'environnement associatif, ça a du mal à le voir, en fait, ce public-là. Et pour démocratiser le jeu, y a une volonté que les assos doivent développer. Il faut aller chercher des gens, il faut aller chercher des membres. À une époque, ça se faisait, on va dire, assez naturellement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un questionnement pour le hobby et puis le jeu de société, à aller chercher des nouveaux membres. Des nouveaux joueurs, tu vas en trouver. Des gens qui vont jouer chez eux, qui vont créer leur groupe. Voilà. Par contre, faire venir des gens dans l'environnement associatif, je veux dire, c'est un niveau supérieur. Les mettre au jeu, le Hammer Time fait le boulot. Ils vont jouer chez eux, ils vont acheter une boîte, ils vont entrer, ils vont démarrer, voire même la peinture. Par contre, les faire rentrer dans l'assaut, c'est très 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 difficile. Très difficile, surtout, enfin, après le concept de la Forge, je vais parler que pour la Forge, on a une volonté aussi sociale. On est en partenariat avec un centre social. Donc quand tu deviens forgeur, tu as un double mandat, en fait. Le premier, c'est de démocratiser ta passion, et puis de la démocratiser vers un public, on va dire... qui n'est pas forcément sensibilisé à ce type d'activité. C'est-à-dire que nous, on est implantés à Vauban et Kerm, on fait des temps forts avec les familles pour démocratiser le hobby, la peinture de figurines, sur des gamins qui, tu leur demandes des figurines, tu leur dis attention, c'est fragile, ça coûte des sous, il faut faire gaffe, il faut apprendre des règles, il faut lire, il faut respecter l'adversaire.
C'est sur quelle console, ce jeu?
Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est parfois compliqué de tout associer. Donc il faut... y a quand même pas mal de murs à franchir. Donc devenir forgeur, je dis pas que c'est un parcours du combattant, hein, c'est pas inaccessible, mais il faut déjà accepter d'aller vers l'autre. Et ça, on se rend compte, c'est pas évident. Donc on recrute peu, faut être clair, on recrute peu. Mais après un more time, on a 3-4 adhésions, quoi, à peu près, quoi.
Alors... Le but, c'est vraiment de faire partager la passion. Oui,
ouais, voilà, ouais. Ouais,
c'est organisé par la Forge Ludique, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer toutes les autres associations de la région, voire un peu plus, au-delà des...
Exactement. Ouais. Ouais. Alors là, après, on peut parler des choses positives. Il y a beaucoup d'associations qui seront là. Je vais en avoir 25 qui m'ont dit OK sur la Meure. Ça touche en effet au-delà de la métropole. J'ai même des Belges qui viennent. Pas encore d'Anglais ni d'Allemands, mais bon, ça sera tardé. Et donc le rayonnement associatif, pour moi, il est important. Parce que je le trouve structurant. Pour moi, c'est quelque chose qui permet vraiment de diffuser la passion. Et ça donne une véritable visibilité au public, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai rencontré, moi, dans mon parcours associatif, des difficultés à obtenir des locaux, à obtenir des subventions. Parce qu'il y a une méconnaissance de l'activité pratiquée. Donc, en tant que leader associatif, quand tu dis « j'ai participé à un événement métropolitain dans lequel il y a eu... 1000 visiteurs, ou 500, ou si on parle de ludique, plus de 2000, derrière, il y a quelque chose qui parle. Puis quand tu dis « je porte les couleurs de votre commune », ça parle encore aussi. Tu vois ? Donc il y a une forme de sérieux qui s'installe dans le côté associatif, puis qui dit « on n'est pas des branques qui jouent avec des dés et des Playmobil, tu vois ? On est sur autre chose. L'environnement associatif, il est parfois perçu un peu avec beaucoup de distance. Alors ça a tendance à s'améliorer, parce qu'on va dire, voilà, il y a des choses qui ont démocratisé, la culture geek s'installe aussi chez nos élus, faut pas rêver. Les mecs, ils ont quand même parfois aussi joué dans leur garage en mode Stranger Things, mais c'est pas le cas de toutes les collectivités. Donc ça permet aussi pour les assos de dire, voyez, on a une consistance qui est autre qu'on joue dans un placard que vous nous avez prêté. Et ça, je pense que c'est le deuxième up pour le Hammer Time.
Alors avant de détailler un peu ces différentes activités qu'on va pouvoir retrouver au Hammer Time, je vous propose d'écouter un peu de musique. Alors, l'année dernière, c'était en juin, nous avons écouté des chansons liées au type Hammer.
Ouais,
effectivement.
Du Motorhead, je crois, d'ailleurs, j'ai souvenir de titre Motorhead.
Et rempli d'innovation, d'inventivité, nous avons choisi cette fois-ci de prendre des chansons liées au Time.
Je sais pas ce qu'on fera l'année prochaine. C'est-à-dire.
Oui, l'année prochaine, il faudra nous aider éventuellement. Je vous propose d'écouter The Kinks.
Les Kinks.
Dominique, c'est un peu un running favori, band.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé les Kinks.
Avec The Time Song.
Tout simplement.
Tant qu'à faire.
Time lives our lives with us. Walk side by side with us. Time is so far from us, but time is among us. Time is ahead of us, above and below us, is standing beside us and looking down on us. When we were young and our bodies were strong, we thought we'd sail into sunsets. When our time came along, now that we're nearing the end of the line, time has changed, time will heal, time will mend and conceal. In the end, everything will be fine. And if we concentrate, time will heal all the hate, all in good time. We go on drifting on, dreaming dreams, telling lies, generally wasting our time. Suddenly it's too late, time has come and can't wait, there's no more time. We go on drifting on, dreaming dreams, telling lies, generally wasting our time. Suddenly it's too late, time has come and can't wait, there's no more time.
Ça dure vite, 2 minutes de Kinks quand même.
C'est toujours trop court.
C'est toujours trop court, voilà.
Ça me rappelle quelque chose de familier. Alors,
c'est ce que ta femme te dit toujours.
Comme on disait pendant la pause.
Tu veux pas d'autre musique, Dame, c'est bon?
Pas tout de suite. On disait, Greg a prononcé le mot parcours dans sa dernière phrase. Et ben justement, on va
commencer. La fameuse question, heureusement en France.
Normalement, on commence par ça, mais là, on est parti sur les chapeaux de roue.
Alors,
on
demandait un petit peu à ça nous permettra peut-être de prendre une pause d'une demi-heure pendant que Greg nous raconte son parcours. et c'est vrai que c'est. Nous, on adore savoir comment est-ce que vous en êtes venu dans cet univers ludique. Quelles sont les activités ou les jeux de société qui vous ont poussé à rejoindre cette association? Dimitri, on peut commencer par toi.
Ouais. Alors, tu veux que je te résume?
Ah oui, je veux tout.
Du début, du tout début.
Ah, je veux tout. Alors, je veux Mamie, Monopoly,
Monopoly, dadas. Non. Je crois que mon premier jeu de plateau, ça a été des risques. J'ai deux grands frères. J'ai deux très grands frères qui ont 10 ans d'écart avec moi. Et j'ai été initié assez tôt au jeu de rôle et à Warhammer, en fait, JDR, la première version. J'ai commencé par ça et j'avais aussi mon autre frère qui jouait à Blood Bowl. Donc je le voyais jouer avec le vieux Blood Bowl. Et un Noël, je crois que ça doit être Noël 93, on m'a offert une boîte de Space Crusade. Oh. Et là, ça a été révélation. Enfin, ça a été révélation, ça a été la première piqûre. Donc ça a attendu quelques années. Et après, au lycée, bêtement, par une balade au Furet du Nord, j'ai vu les magazines promotionnels de Games Workshop avec les figurines d'armée, mais carrément les armées, parce que Space Crusade, c'était un jeu de donjon, mais spatial, avec pas beaucoup de figurines. Enfin, il y avait quand même beaucoup de matos dans la boîte.
La boîte était bien remplie, oui.
Voilà. Mais ça restait quand même, il n'y avait pas beaucoup. Et là, on voyait des Space Marines, parce que c'était ça quand tu étais gamin. Tu te disais, les Space Marines, c'est cool. Les gros guerriers de l'espace. Et là, j'ai vu des armées en entier, quoi. Je me suis dit, mais ils font des armées. Et j'avais genre, c'était comme un Graal, en fait. J'avais cherché ça toute ma vie. Je me disais, ça peut pas exister. Quand j'étais gamin, je jouais avec mes soldats, je lançais les dés. Je me disais que, voilà. Mais je savais pas que ça existait, en fait. Et après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça existe. Et j'ai touché mon premier salaire à l'époque en francs.
Oh.
Et j'ai 8000 francs.
Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu.
Et en fait, il est parti beaucoup en figurine.
Dans une boîte d'armée, voilà.
La première chose que j'ai fait, j'ai pris un billet de train direction Lille. J'ai été à la boutique Games Workshop. J'ai dépensé pour 1000 francs de figurines. Et après, en fait, je n'ai pas joué parce que il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait pas Facebook, etc. Donc c'était très dur de trouver des gens avec qui jouer. Finalement, par le billet de contact, etc., j'ai joué avec des gens à Douvrin. Puis après ça s'est arrêté pendant très longtemps. J'ai pas joué pendant très longtemps, j'ai revendu toutes les figurines. Et après j'ai retrouvé une asso, d'abord les Arpenteurs, et ensuite y a eu la forge qui a été créée. Et là j'ai racheté des figurines. Et puis là, c'est plus facile quand on a un métier et que on gagne sa vie pour acheter plein de figurines. Et il faut avoir le temps de les peindre, mais voilà. Et après, tout doucement.
Mais c'est toujours le même plaisir quand il y a la nouvelle boîte qui sort, que tu l'ouvres et que tu vois toutes les planches, les figurines en plastique à peindre.
C'est
le même plaisir que tu avais quand tu étais.
C'est. Ouais, c'est. Alors, en plus, aujourd'hui, ce qui est. Il y a un truc qui est bien, il y a un truc qui, parfois, est moins bien, c'est que c'est devenu moins un truc d'initié aujourd'hui, les figurines. Je trouve. Je trouve que c'est plus accessible. Le jeu de plateau, en général, avec figurines, ça devient de plus en plus accessible. Alors, c'est vachement bien, parce que ça amène beaucoup d'autres personnes, mais ça amène d'autres problèmes. Bon, après, que je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je trouve que, voilà, il y a le petit côté d'initié, où on était un peu, comme dit Greg, à la Stranger Things dans le garage, et on se disait qu'on était à part des autres, qu'on était exceptionnel, on était original et tout, parce qu'on faisait ce truc-là, tout le monde te regardait dans la famille en disant...
On prononce plein de mots en anglais, etc., que les autres comprennent.
Oui, voilà, c'est ça. Tu...
Target Destroy, tu sais, t'en sais assez, hein, ouais, c'est bon. Hein.
Tu lançais les dés, les gens, ils te regardaient jouer, tu disais, quoi, t'as un dé à 20 faces, tu vois, les gens étaient...
Mireille
aujourd'hui,
Dumas parlait de toi à la télé, c'était génial.
Ça, c'était le mauvais côté de l'époque.
C'était un cataclysme, ce truc-là.
Ça, c'était
un cataclysme. Ça
a été le mauvais côté de l'époque.
Surtout associatif, d'ailleurs.
Et voilà mon parcours. J'ai eu la chance d'avoir des frères qui m'ont mis le pied à l'étrier, même si eux... Alors, ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, ils ne jouent pas du tout, en fait. Mes deux frères ne font plus du tout rien... de figurines, de tout ça. Enfin, il faisait pas de figurines, mais du jeu de rôle. J'ai un frère qui joue plus du tout au jeu de rôle et l'autre qui a. Voilà, il fait pas du tout, quoi. Et voilà, moi, ils m'ont mis le pied à l'étrier et ça a été crescendo jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Alors, aujourd'hui, tu es plus jeu ou peinture de figurines ?
Alors, c'est une question piège, parce que vraiment, c'est les deux. Il y a eu un moment, je t'aurais répondu, c'était que le jeu. Il y a eu un moment, je jouais avec des figurines pré-peintes avec un jeu qui s'appelait
Tekken 3. Mais maintenant qu'on t'a appris les bonnes techniques
exactement.
De peinture...
Eh ben, le confinement a bien aidé aussi pour ça. C'est-à-dire qu'à l'assaut, et c'est ça aussi que ça permet à une association, nous, il y a un vrai échange de savoir. Il y a des très, très bons peintres qui arrivent à être très pédagogues et qui m'ont vraiment bien coaché sur la peinture. Et aujourd'hui, je prends autant de plaisir à jouer une partie qu'à peindre. Après, on aimerait avoir un temps qui soit extensible. Et pour ça, le confinement, ça a été top parce qu'on a pu beaucoup, beaucoup peindre. Mais voilà, c'est, je dirais que c'est 50-50. Le plaisir, il est à 50-50 entre le jeu et la peinture. Quoi. Voilà.
C'est vrai, on en parlait lors de la dernière émission, alors ça, il y a plus d'un an. D'ailleurs, vous pouvez la réécouter sur notre anotherpodcast.fr. Voilà, puisque je pense que sur le site de Radio Campus, là, la tranche horaire, elle est un peu dépassée. Okay. Mais vous pourrez réécouter cette émission, bien sûr. Et c'est vrai qu'on parlait que ça peut sembler difficile de se lancer dans la peinture de figurines, mais lorsqu'on est dans des associations comme ça, entourées de gens qui ont des techniques très simples qui vous permettent de peindre des figurines.
On fait toutes les erreurs qu'on n'aura pas à faire.
Exactement. Bah, c'est éviter les écueils du début. Il y a aussi le budget. Voilà, le budget n'est pas neutre.
Tu plantes, il y a plein de gens qui ont des vieux pinceaux qu'ils n'utilisent plus et qui marchent encore très bien, des pots de peinture. Oui.
Après, l'intérêt, nous, au niveau associatif, on met à disposition énormément de matériel. Tu débutes, tu n'as rien, tu as juste ta figurine à peindre. À la forge, tu as cette possibilité de peindre sur place. C'est-à-dire que, et tu trouveras forcément quelqu'un qui viendra te donner un coup de main pour peindre et t'éviter les principaux écueils. Hein, la dilution, quelle marque je dois acheter, comment je peins telle chose. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Quoi. Ça coûte quand même. Faut pas le nier, c'est assez cher.
Oui, oui.
Oui, on a tous vécu là-dedans. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu moins cher aujourd'hui ?
Alors, il y a...
Parce que je me souviens, lorsque je me suis lancé, Dominique, tu m'avais initié à Confrontation. Figurine magnifique en plomb. Ça coûtait sans
même
salaire.
Même leurs peintes étaient tellement magnifiques.
C'est vrai. C'est vrai.
Et une fois que nous, on peignait les figurines, on n'avait plus envie de jouer avec. On n'était pas accompagné de alors, je vais dire professionnel, mais qu'on voit, puisqu'on avait eu l'exception d'avoir une figurine du Hammer Time lors de la dernière émission d'Heureusement en France.
Ça peut, c'est vrai qu'il faut faire attention, ça peut rebuter. Quand tu veux me lancer et que tu tombes sur des gens qui sont vraiment très très forts, oui, il faut éviter d'avoir l'écueil du « j'arriverai jamais à ce niveau-là, je ne vais même pas commencer
». Alors il y a ce phénomène décourageant qui est véhiculé par les réseaux sociaux, beaucoup.
Oui.
Il y a des choses comme ça qui sont ressenties pour avoir questionné beaucoup de peintres débutants. Dès que vous vous inscrivez sur un groupe, il y a une récurrence. D'ailleurs, je crois qu'il y a un youtubeur français qui en a parlé dernièrement. Il dit il ne faut pas être effrayé par ça. Vous avez forcément affaire aux super peintres. Les mecs, globalement, ils sont 500, 600. C'est comme si je te dis bon, écoute, on va jouer au football dimanche, mais si tu ne joues pas comme Messi, tu ne feras rien.
Voilà.
Tu vois,
quoi, t'as pas le short, t'as pas les bonnes chaussures, t'as pas les
bonnes. Non, on commence direct, c'est frappe retournée, rien, frappe des 25 mètres carrés dans la lucarne, sinon ça sert à rien
c'est
de faire du foot.
Tu commences la cuisine, c'est tout de suite
donc, il faut...
le plat raffiné avec l'épice qui vient du fin fond de la forêt du Moyen-Orient, etc. Sinon,
ça fonctionne pas, je mange pas chez toi.
Sachant que, pour te couper, ces gens que tu vois, que Greg parle, c'est des gens, c'est leur métier.
Ouais.
Ils font
pas
ça.
Toujours,
alors, il y a des très bons peintres qui.
En fait, on revient au White Dwarf des années 2000 où tu voyais les peintres professionnels dans le magazine qui te peignaient des figurines énormes que toi tu pourrais jamais imaginer et après c'était livré à un catalogue de vente à des jeunes de 10-15 ans qui essayaient de peindre pour débuter.
Tout à fait. Alors après, là je vais rebondir sur White Dwarf. White Dwarf, lui, il te vend on va dire un schéma de technique qui est le même, interchangeable quasiment au niveau des peintres.
Mais le White Dwarf, c'est
très
un catalogue de vente, faut être clair.
Ah oui, clairement. Après, c'est une technique de peinture qui est assez complexe à mettre en œuvre, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'il demande énormément de précision. Ce qu'on appelle le Edge Highlight, c'est-à-dire on va dire un aplat quasiment complet, où tu rehausses uniquement la tranche du relief, la tranche du relief d'une figurine de 28 mm, honnêtement, c'est pas grand-chose. Et tu la relèves pas avec une couleur, tu la relèves avec trois couleurs. Enfin, tu poses un premier trait, un second, puis un point.
À l'époque, tu avais les glacis, les, voilà. la vie, tu as plein de choses. Tu n'as plus les peintures de maintenant. Ouais.
Donc, il y a une évolution des techniques, il y a une évolution aussi des attendus, puisqu'il y a des peintres qui ont démocratisé d'autres formes et d'autres techniques. Et donc, aujourd'hui, bon, il y a l'aérographe qui est rentré dans la danse, il y a la vie, il y a les peintures contrastes qui permettent aujourd'hui aux grands débutants complets, et je vais y revenir, je vais me placer encore une petite sur le Hammer Time. Là, cette année, on s'est dit, comme axe de développement pour la peinture, on va aller chercher les gens qui ont du jeu de plateau avec figurines dans leurs armoires. Et on va leur dire, venez, alors je lance un appel, si vous avez un zombicide, un Black Rose War, un Monster Slaughter ou autre, ou même du jeu en Kama, et que vous lui donnez un petit peu de peps, hein, rehausser les yeux, lui faire un visage un petit peu custom, venez sur le Hammer Time, on vous montrera qu'il y a une possibilité, exactement, qu'il y a une possibilité de vous lancer assez facilement en partant d'un kit lambda avec 16 couleurs, un pinceau de base. Vous verrez ce que vous arriverez à produire sous l'auspice d'un conseil, parce que rien ne remplace, je vous le dis, hein, il n'y a aucune vidéo YouTube qui vous fera le correctif physique de votre geste.
C'est clair.
Voilà. Vous pouvez en regarder autant que vous voulez.
Ça rappelle des tas de souvenirs de boîtes, tu parlais de Space Crusade tout à l'heure, de figurines Space Crusade peint à la gouache, etc. C'était moche.
Je l'ai tenté aussi.
Ça. Mais ça nous a fait plaisir et on était contents parce qu'on avait notre personnage qui avait une couleur qui était différente, ça ressemblait à rien, mais il était différent des autres. C'était pas le même que tous les autres millions de joueurs qui avaient acheté Space Crusade.
On peut faire une petite dédicace à Guillaume et Antoine qui
étaient avec l'année dernière,
nous, et qui nous ont parlé justement de cette initiation à la peinture qui devient un peu comme une révélation lorsqu'on rejoint la Forge Ludique, on se sent accompagné et cette mission impossible semble bizarrement tout d'un coup plus facile à faire puisqu'on se rend compte que certaines tâches sont assez facile à faire une fois qu'on a les bons conseils, une fois qu'on sait bien diluer sa peinture à tel endroit.
Y a un révélateur qui est assez important dans la peinture, c'est de te dire « j'y arriverai jamais ». Et puis quand tu commences à t'y mettre, de te dire « mais en fait, le processus créatif, je l'ai aussi ». C'est-à-dire que je pars d'une figurine qui est monochrome, et ce que j'arrive à en produire, je ne pensais pas y arriver. Alors, ce n'était pas au niveau des peintures HD qu'on peut voir, dont on a parlé. Mais ce que tu as accompli, tu dis, mais c'est un niveau de peinture auquel normalement je n'accède pas. Parce que tu avais un blocage au niveau d'une technique ou une appréhension. Et on te dit, c'est juste ce geste-là que tu ne fais pas correctement. Tout le reste, c'est bon. Mais il n'y a que ça. C'est à ce moment-là que tu merdouilles, en fait. Et en général, c'est un geste assez simple qui fait que tout votre travail, il est foiré. Et c'est assez vite décourageant. Alors que si vous avez quelqu'un sur votre épaule qui dit « Stop, va pas par là, c'est dangereux, tu vas perdre toute la qualité de ton travail », et bien franchement, vous progressez beaucoup, beaucoup plus vite. Quoi. Et vous vous découragez pas. Hein. Donc je pense que la peinture, plus qu'autre chose, ça mérite encore une relation, on va dire, mentorat. Quoi.
Alors, on parle de mentor, il y a un peu un gourou dans cette forge ludique.
Je ne vois pas de qui tu parles.
Il reste que 25 minutes, hein. Tu sais qu'on va faire ton parcours.
Bon, on va faire ton parcours, on va sortir du campus, carrément.
Okay, vous me laissez là, on me retrouve demain, c'est ça?
De toute façon, il n'y a pas d'émission après, donc c'est bon.
Mais c'est vrai que t'es un peu au centre de cette forge ludique lorsqu'on parle un peu aux différents membres de l'association. Généralement, le regard se retourne beaucoup vers toi. Comment c'est arrivé tout ça?
Alors, par où ça a démarré? C'est ça la question indirecte ou c'est que la forge ludique?
On enlève tous notre caste.
Ils s'en vont. Ils me laissent. Bon, ok, je peux faire ce que je veux.
À plus.
Où ça a démarré, il y a deux éléments. C'est d'abord le partage de la passion. D'accord. Moi, je suis un grand mordu. J'ai démarré très, très vite à travers différents aspects. Pour faire mon historique, j'ai démarré par la maquette. Très, très jeune, 9-10 ans, je crois. Mais vraiment, c'était tout mon argent de poche. Dès que je pouvais, c'était la maquette, du 1/72 principalement. Et puis ensuite, j'ai découvert le jeu de rôle. Donc par accident, à travers les livres dont vous êtes le héros. Ensuite, j'ai rencontré un groupe, mais vraiment comme dans les séries. Comme dans la série Stranger Things, vraiment le même plan. C'est-à-dire qu'on joue dans le garage, on joue dans le salon. Dès qu'on peut, on se réunit, on fait le module D2, on va se taper le marais des hommes lézards. Donc ça a été vraiment ça qui m'a propulsé. Et puis assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, il y a possibilité d'associer les deux trucs qui me font triper. Le jeu de rôle. J'étais très rarement maître de jeu. J'étais plutôt joueur, je consommais plutôt. J'aimais bien les persos de voleurs, étrangement, et de barbares.
Donc, backstab.
Ouais, voilà, j'aimais bien sneak attack.
Dans ta gueule. Ouais,
voilà, c'est ça. Propre, ça va 5 minutes.
Voilà. Bon, les magos, j'aimais pas trop, parce que les bouquins étaient souvent en anglais, mais j'étais pas très bon. Donc, il fallait tout lire. C'était assez compliqué. Donc là, mettre une claque, ça allait. Et mes potes, en fait, ne peignaient pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des figurines dédiées, en fait, au jeu de rôle. Et donc, je me suis fait mordre par la figurine, comme ça. J'avais la maquette, bien chevillée au corps. Et puis, la figurine. Et puis après, c'est devenu complètement addictif. À tel point que le maître de jeu me donnait les monstres dont il avait besoin. Que c'est moi qui les achetais, je les peignais avant le scénario d'après.
Tu faisais spoiler du scénario un peu.
Ouais, ouais, j'ai souvenir d'un dragon zombie à peindre du samedi après-midi pour une partie du samedi soir.
Vous entendez un drôle de bruit derrière. Les mecs, on n'y va pas, je viens de peindre la figurine.
Donc bon, il y avait des plans comme ça qui étaient assez rigolos. Donc ça, ouais, c'était ma première jeunesse. Puis après, ben, c'est l'arrivée dans le milieu associatif, sous les auspices des arpenteurs. Donc j'ai pas été membre fondateur, c'est pas moi qui ai créé l'asso, mais j'étais un des premiers à prendre ma carte là-bas. J'avais le numéro 13.
Les arpenteurs de rêve, hein, ouais. L'asso de Bourdin, ouais. On avait reçu aussi.
Ouais. Alors ils étaient lillois en fait à la base. L'époque. C'était voilà, ils étaient à Lille, d'ailleurs pas très loin de nos locaux actuels. Ils étaient sur Vauban. Et ensuite, j'ai intégré ça et puis j'ai rencontré d'autres gens qui avaient aussi un parcours figurine. Et donc on a créé très vite un petit groupe. Et par contre là, ça a été j'ai joué à plein de choses. En gros, tout ce qui existait sur le marché, je l'ai testé à cette époque-là, donc de 1989 à 95. Tout ce qui sortait, je l'ai testé. Ouais. Je l'ai même parfois même bêta-testé. Donc je jouais 4 à 5 jours par semaine. J'ai ruiné mes études, ouais. Voilà. Mais j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de trucs super. Hein. J'ai juste décroché le baccalauréat au forceps. Mais j'ai vécu une des plus belles périodes ludiques de ma vie. Quoi. J'ai tout testé, j'ai fait plein de choses, plein de conventions. Et puis après, l'environnement associatif m'a gagné. Et puis, il ne m'a jamais quitté, clairement. Donc aujourd'hui, j'ai voulu créer quelque chose qui soit une grosse locomotive, en fait. Je voulais une locomotive associative et que ce soit aussi un incubateur ludique. Alors, c'est un mot un peu bizarre. C'est une espèce de fabrication, pour bien faire comprendre rapidement ce que ça voulait être, la forge ludique. C'est-à-dire que, par exemple, là, on parlait tout à l'heure du podcast de Dimitri. Il parle de la passion. Il l'a véhiculé à travers un podcast. Sauf que lui, individuellement, il a besoin de matériel pour faire ça. Je vous apprends rien, tout ça, ça coûte de l'argent, etc. Je me dis, si une asso permet ça à lui, ou demain à d'autres à l'intérieur de l'asso, de véhiculer la passion de la figurine, du jeu de plateau, ben voilà, c'est ça la forge. En fait, c'est des forgerons, on en a plein, mais les mecs, ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas les sous pour une enclume à marteau, et j'ai pas de quoi acheter du métal. Je dis, pas de problème, moi, je vais m'en occuper. Ça va être mon taf, moi je vais m'occuper de ça. Par contre, toi, ton processus créatif, il ne doit pas rencontrer de frein, ou en tout cas le minimum. Et c'est vraiment ça que j'ai dans la tête, depuis la création de l'asso. Et donc, oui, ok pour le podcast, oui, ok pour la vidéo, oui, ok pour une chaîne YouTube. Et dès que tu viens vers moi avec une idée, je te dirai jamais non. À partir du moment où tu vas taper sur l'enclume, moi je vais me démerder pour te mettre quelque chose dessus. Quoi.
En fait, les gens arrivent avec leur motivation. Ouais. Et toi, tu permets justement de créer des choses comme ça. Et c'est ce que parlaient les deux intervenants la dernière fois. Il y a vraiment une scène ouverte aux propositions. Et ensuite, voilà, tu as la motivation pour le faire. Tu as la volonté. Tu proposes déjà des idées, des moyens. Allons, on y va.
Oui, exactement. Ouais. Après... j'ai pas de frein par rapport à. Je vais accompagner, genre je vais pas prendre le. C'est pas moi qui vais piloter, mais en fait c'est important quand tu es dans un mode projet, t'as toujours un coup de mou, tu dis ouais, comment je vais faire ça? Au niveau administratif, je suis pas bon. Comment je fais pour débloquer telle situation? Si tu te retournes vers moi, globalement, je dis pas que j'ai la solution à tout, mais j'ai déjà cette expérience-là, dire non, tu vas pas dans cette direction-là, tu vas t'épuiser, ça sert à rien, ou je vais le faire pour toi, moi j'ai les contacts, ça va aller beaucoup plus vite, oublie tout ça, je vais être un facilitateur, en fait. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour l'année 2021. On aimerait bien faire une campagne narrative basée sur un jeu qui réussit à associer différentes assos qui jouent au même jeu, mais à travers un contexte narratif commun. Alors, on a déjà essayé sur Warhammer 40 000 et Kill Team. Bon, il y a eu un embryon de quelque chose qui est vite tombé à l'eau. Et ça, j'aimerais bien réussir à faire une passerelle, à faire un crossover inter-asso pour qu'on fasse une campagne, quitte à l'échelle de la métropole, peut-être deux clubs dans un premier temps, puis après peut-être trois, puis après peut-être quatre, pour avoir vraiment une dimension qui permet aux assos de discuter entre elles. Parce que même ça, ces cloisonnements-là, ils existent en fait. T'as les présidents qui se parlent entre eux, les mecs se connaissent, ils jouent dans un ou deux clubs. J'aimerais bien déverrouiller tout ça en fait. Donc le prochain axe, le prochain gros projet, c'est ça. Et puis peut-être du tournoi. Alors peut-être pas sous les auspices de la Forge Ludique. Il y a des gens qui sont venus me solliciter. Ouais, Greg, est-ce que t'as des filons pour que je fasse des tournois? Donc oui, j'en ai. Donc on verra s'il y a une possibilité de faire des tournois. Donc tu vois, il y a plein de choses. Le podcast, on en a parlé, la chaîne YouTube. Donc tu vois, il y a des investissements qui sont faits, mais c'est une asso 1901, donc on n'est pas là pour faire du bénéf, autant te dire que moi, dès que je peux, j'injecte. Hein.
C'est le but de l'asso.
Faut que ça avance, quoi. On est bien lancé, là. On se veut dynamique, quoi. Alors, le problème, il y en a un, quand même, à tout ça, c'est qu'au milieu des 300 idées, tout déblayer pour trouver celle qui va vraiment avoir une vraie vie, c'est pas évident. C'est donc pas parfois, évident. On se disperse un peu, voire même parfois beaucoup. Et donc, il faut recadrer les gens. Il faut tester d'abord leur motivation pour voir s'il y a une vraie pérennité dans l'action.
Alors, dans cette nouvelle édition de Hammer Time, quelle nouveauté on va pouvoir voir apparaître
quand on va franchir les portes du gymnase?
Et quelles sont peut-être les choses qui ont déjà marché par rapport à la dernière émission?
Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné? C'est le retour du public. Voilà, on avait fait une espèce de boîte où on avait demandé aux gens quels sont les axes d'amélioration pour le Hammer Time 2. On avait fait une boîte à idées. Alors, à savoir que on avait fait en même temps que le vote, c'était le même bulletin. Je ne sais pas si vous avez voté pour la plus belle table, mais en dessous, on avait une suggestion. Qu'est-ce que vous voulez voir au Hammer Time numéro 2?
Qu'il y a eu plus de crêpes?
Ouais, il y a eu plus de crêpes. On a eu plus de crêpes. Alors, j'ai tout noté. Hein, j'avais fait une restitution aux membres. Bon, le vote majoritaire, c'était de me voir en slip avec une barre de pole dance. Ouais, ça ne se fera pas.
Oh, tiens, vous avez pris en compte
la figurine de l'année prochaine.
Bah, écoute, t'as dû corrompre pas mal de gens parce qu'il y avait quand même deux, trois trucs comme ça. Quoi. Donc, il y avait ça. Mais par contre, parmi les choses qu'on fera, il y avait la volonté d'installer un parcours enfant, de faire quelque chose pour les plus jeunes. Mm-hmm. Parce qu'on a eu quand même des visiteurs en famille. Donc, monsieur, madame et les enfants. Et pour le plus jeune, c'était pas évident en fait d'avoir une forme de concentration sur eux.
Mine de rien, quand t'as un enfant qui est pas très grand qui arrive, la plupart des tables de jeu sont à hauteur des yeux, donc ils voient juste, ils voient les figurines par en dessous des fois.
Exactement. Donc là, on a une idée assez lumineuse, c'est on va faire des mini enclumes orange, donc qui font 7-8 cm de haut, qui seront dispersées sur les différentes tables de la convention, et donc ça sera un parcours un peu dans le principe des autres packs, mais ça sera destiné aux plus jeunes. Donc ça, c'est une des nouveautés pour qu'ils puissent passer le temps. Donc ça, c'est pas destiné directement aux gamers, mais ça va leur faciliter la vie pour intéresser les enfants les plus jeunes, quoi. Donc ça, c'est une des news. Et puis ensuite, ça colle quand même à l'actualité figurines et jeux de plateau. Puisque pour citer quelques références, on aura l'activité Mythic Game qui sera présente. On aura une démo de Solomon Kane. Donc là, vous pourrez tester Solomon Kane directement. On aura aussi du Super Fantasy Brawl, donc là, qui est dispo, donc ça, c'est quand même pas mal. On a aussi été beaucoup suivi par Légion Distribution, qui était vraiment très satisfait de la première édition. Donc, ils nous ont envoyé pas mal de choses, notamment en lot. Et puis, donc, il y aura de la démo pilotée par Teal Game là-dessus. On aura du Black Rose War. Donc,
Teal Game, où vous pouvez avoir aussi la figurine du Hammer Time. Oui. Je voulais te reprendre tout à l'heure, je ne savais pas. La figurine, elle est dispo encore chez...
Alors, Hammer Chris, la figurine exclusive du Hammer Time, elle est disponible en avant-première dans nos deux boutiques partenaires lilloises, qui sont donc Obimax, qui est rue Georges Martin, c'est pas loin de la place de la République, et chez Teal Game, qui est situé aujourd'hui à la librairie des Quatre Chemins, au premier étage, rue Pierre-Mauroy. Donc très proche de la mairie de Lille. Donc il reste quelques exemplaires. Vous pouvez les retirer, je crois qu'il en reste 3 ou 4. Donc voilà, vous pouvez vous précipiter.
Et aller à propos de la librairie des Quatre Chemins, le week-end prochain, donc le samedi 5, on pourra, à la librairie des Quatre Chemins, dans l'espace Teal Games, voir The Belgian Beer Race, un jeu dont on a parlé dans la dernière émission, qui est en Kickstarter en ce moment, un jeu belge sur les bières belges. Et ils seront présents ce samedi à la librairie des Quatre Chemins à Lille, samedi 5.
L'objectif, c'est de se déplacer à travers Bruxelles en consommant un maximum de bières.
Un maximum. La qualité avant
la
quantité.
Avec modération.
Ah, moi, je gagne avec les points maximum. Donc, oui, j'ai testé, c'est quand même...
Parce qu'il est tombé dedans quand il était petit.
Voilà, donc, au niveau nouveauté, pour continuer... Bon, on va retrouver, donc je disais, ça colle à l'actualité. On aura pas mal de tables d'Age of Sigmar. Il y aura du Games Workshop bien représenté. Mais pas que les références commerciales que vous pouvez trouver en boutique, puisque je vais avoir du Warhammer 40 000 V1, et oui, pour les nostalgiques. Donc je l'annonce là, voilà.
Il n'y a pas que dans le jeu vidéo qu'il y a du vintage.
Ouais, alors il faut savoir que c'est quand
les
même.
Les figurines ne sont pas en 8 bits. Hein.
Ouais, non, elles sont pas en 8 bits.
Pas loin. Ni en noir et blanc, oui.
Ni en noir et blanc. Justement, là, je pense que c'est le groupe Facebook Warhammer 40 000 V1 qui se déplace, et je pense qu'ils vont envoyer du pâté. J'ai aussi une autre table sympa qui sera Warhammer 30K. Donc je l'ai gardé l'info, je voulais pas le dire, je le dis en face. Dim, il a son œil qui cligne. Donc voilà, donc Warhammer 30K, même chose, on aura une grosse table et ça devrait être, s'ils ont tout ce qu'il faut, l'assaut d'une forteresse en Warhammer 30K, donc pour tous les fans de l'hérésie d'Horus, je pense que ça sera ça, on verra du pâté. On aura les Arpenteurs de Rêve qui nous feront une grosse démo du samedi, donc si vous voulez voir du Adeptus Titanicus, ça sera le samedi.
Des gros robots qui
se fritent, mais à une échelle qui n'est pas le 28 mm, hein, donc, mais ça, c'est un jeu sympa, donc beaucoup, beaucoup de choses.
Je sais déjà qui
ça
va perdre. Cette partie.
Est-ce qu'on aura de l'historique aussi?
Alors, bonne question. C'est une très bonne question parce que j'avais dit l'année dernière, à la fin du Hammer Time, j'aimerais voir de l'historique. J'aimerais en voir. Et il y en aura. Alors, il y en aura. On aura une table dédiée au Vietnam, donc en 28 mm. Donc, j'ai vu quelques visuels. Vous êtes dans l'environnement de la série Tour of Duty. C'est vraiment ça.
Faire du devoir.
Voilà. En faire du devoir. Il y aura également de la Renaissance, un peu de Napoléonien en 15 mm. Ça sera piloté par les Nerviens. Donc là, une grosse table, je pense. Ouais, voilà. Donc ça promet du beau au niveau histo. Et il y aura peut-être du Saga. Alors, réserve là-dessus. Donc Saga, c'est le Dark Age, c'est du jeu d'escarmouche. Vous jouez sur une bande de vikings dans l'esprit de la série. Mais bon, ça, je mets un petit bémol, c'est pas encore confirmé. Voilà.
Alors, ces jeux historiques, ça prend 2 jours?
Alors justement, les jeux histo, en général, ouais, c'est assez long. C'est assez long, c'est des jeux qui sont pas d'une complexité de règles différente, mais là on aura un jeu qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle To the Strongest, qui est un jeu en fait qui fait déplacer des figurines, alors peu importe l'échelle, ils m'arrêteront si j'ai dit des bêtises, mais c'est un jeu à cases. Et en fait, les activations de l'armée se passent avec un jeu de 54 cartes, donc classique, hein, pique, carreau, trèfle. Et donc c'est une prise de risque. Au plus vous donnez des ordres, au plus vous avez une chance d'arriver à une situation catastrophique.
C'est un peu un système, je ne vais pas dire générique de règles, mais oui,
on n'est pas loin.
Que tes cases fois 5 mm de large ou 50 cm de large, si tu as des grosses figurines, etc. Bon, peut-être pas. Mais...
Donc on aura ça, et pour moi c'est un intérêt, c'est d'aller vers une possibilité historique sans aller vers le catalogue des règles où vous devez simuler une charge en préparation de course.
Je vais lire 3 bouquins pour savoir si tel cheval qui est peut-être blessé.
J'ai testé ces systèmes-là. Bon, après, il y a une satisfaction à réussir sa charge, mais c'est trop complexe.
Ça a tendance à disparaître, d'ailleurs. Ce type de jeu très... Enfin, moi, c'est ce que
ça
je remarque dans
le public. Quoi.
Dans le hobby, on est à compresser les règles. Tu vois, on parle d'historique. Il y a Bolt Action, qui est un jeu aujourd'hui qui fait son chemin, qui se passe au Deuxième Guerre mondiale chez Warlord Games. Et le jeu est ultra simple, mais vraiment ultra simple. C'est... Il n'y a pas de 50 000 trucs règles, d'ordre, etc. C'est une règle qui est assez générique. Tu peux l'adapter sous tout type de conflit. Et voilà. Mais on a tendance à réduire les règles. Et là, Mélisto, un bastion qui est quand même encore bien ancré dans des règles un peu complexes quand même.
Je pense qu'il y a quand même quelques éditeurs qui ont compris qu'ils ne devaient pas tourner la page, mais en tout cas proposer une alternative. Pour moi, To the Strongest, c'est quelque chose qui va vers ça.
Saga dont tu parlais tout à l'heure est un bon exemple. C'est évident, tu peux reprendre tes figurines. Moi, j'ai fait une partie de Saga. Oui. J'ai repris mes figurines de confrontation qui avaient pris la poussière depuis l'époque. Ouais. Et j'ai pu y jouer parce que c'est un univers. Voilà.
Alors, en effet, ce système-là, c'est un système qui est générique, qui ne se veut pas simulationniste. Ouais. Hein, parce que quand tu parles des joueurs histo, tu leur parles de Saga, ils peuvent aussi dire ouais, mais bon, le système n'est pas
et
forcément.
Puis, si tu viens avec une figurine qui a le malheur d'avoir le troisième bouton de la quatrième de la veste. Ouais. Qui n'est pas de la bonne
alors,
couleur.
Je dis pas que c'est un mythe. Je dis, alors, c'est pas un mythe parce que ça existe réellement.
Ça existe,
mais après, tu as tout type de comportement. Tu vois. C'est comme des mecs qui supportent pas les Space Marines peints ou les couleurs un peu bariolées ou avec des arcs-en-ciel roses sur le côté.
Après, il faut savoir où tu mets les pieds. Exactement. Si tu fais de l'historique, on a souvent eu des discussions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Enfin, voilà, tu fais de l'histo, tu fais de l'histo. Après, il ne faut pas être non plus un nazi de l'histo, quoi, sans faire de mauvais jeu de mots. Faut être quand même light pour les nouveaux joueurs, mais
bon, faut, c'est vrai que
faut savoir où tu mets les
jouer
pieds.
Jouer des Américains en livret des Ardennes dans un combat du désert qui oppose à des Russes, bon, ouais,
voilà, tu vois,
un peu trop,
c'est
mais
pas
bon,
possible.
Après, ouais.
Enfin, tu vois, c'est, ça serait après chez toi, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais. Voilà, c'est, je comprends les joueurs histo qui veulent rester dans leur contexte.
Moi, je vais citer une phrase que je donne souvent pour quels que soient les conflits ou l'interrogation par rapport au jeu de figurines, que ce soit tournoi contre narratif, parce que bon, pseudo, a priori, il y aurait des tensions, ou historique, en livret fuchsia. À partir du moment où ton partenaire de jeu, il est OK,
ça, c'est sûr.
Tu fais ce que tu veux. Hein. Les règles, c'est juste une convention entre deux joueurs. Hein.
Ça, Renal l'a bien entendu. Ouais. Alors, je vois que tu as pris 3 pages de notes et que tu as à peine entamé la première. Mais... Et vu qu'il nous reste à peine 2 minutes d'émission, est-ce qu'il y a d'autres news à la volée, comme ça, que tu veux énoncer?
J'allais justement demander, faire une question justement pour le Hammer Time. L'année dernière, on avait 1 ou 2 tables de prototypes.
Ouais.
Est-ce que ça sera reconduit cette année ou pas?
Alors, les protos, on aura des avant-premières. Donc, Solomon Kane, on va dire.
Mais on arrive sur du Mythic Game.
Ouais, on arrive sur du gros.
Avec
gros.
Du Kickstarter et compagnie, mais du vrai proto avec une personne lambda qui vient.
Non, j'en aurai pas. J'en aurai pas. Okay. J'en aurai pas parce que. Faute de place. Ouais, très clairement, faute de place. Faute de place, j'en aurai pas. Donc, j'ai pas cherché à développer ça. J'ai pas cherché à développer non plus le tournoi. Pour privilégier une seule activité, c'est celle de l'association, en fait, de donner visibilité aux associations. Voilà. Puis après, très clairement, en filigrane, vous avez compris, je cherche une salle plus grande. Quoi. Voilà.
Ah ouais. pour être venu l'année dernière, on comprend très bien.
Alors, Greg, Dimitri, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Je t'avais demandé un petit morceau de musique et tu m'as proposé Joe Cocker avec With a Little Help from My Friends.
Exactement.
Ce qui résume un peu apparemment
mon état d'esprit,
cet esprit dans cette forge ludique et dans ce gros événement
qui
est le Hammer Time.
Parce que on est. En avant de l'événement, il y a quand même une grosse mobilisation associative.
On parle de 80 bénévoles ?
Sur le Hammer, 80. Ouais. En amont, entre 15 et 20. Voilà. Je n'ai pas le chiffre exact, mais après, en fonction des interactions, mais ça va de la création de l'affiche à la diffusion sur les réseaux sociaux, les vidéos, la connexion à l'international. Je ne parle pas un mot d'anglais qui est confié à Dimitri. Donc tout le monde a son taf, tout le monde a vraiment bien rempli tout ça. Après, il y a le partenariat interassociatif avec les canonniers. Enfin, une production de figurines, ce n'est pas neutre. C'est quand même un gros chantier. La création de tous les goodies confiés à Pierre. Enfin, au niveau design, c'est énorme. Je vais citer Kirou, Antoine. Ils sont tellement nombreux, je risque d'en oublier.
Ouais,
ouais. Mais on est une bonne quinzaine à bosser là-dessus.
Donc, du 12 au 13 septembre, n'hésitez pas, c'est le Hammer Time en plein centre de Lille. On ne peut pas faire mieux en visibilité.
Ça commence à quelle heure le samedi ? 10h.
10h ouverture au public. L'installation associative, elle se fait à 8h. Bon, voilà, après, si on
connaît toutes les informations, c'est sur le site de la Forge Ludique.
Tout à fait.
Laforgeludique.fr, tout simplement.
Ouais. Voilà. Rendez-vous au Hammer Time.
Voilà, c'est la fin de cette émission Heureusement en France. Vous pouvez réécouter, bien sûr, en podcast l'émission sur le site de Radio Campus ou sur le site de anotherpodcast.fr.
Ce soir, si j'ai le temps.
Allez. Et d'ici là, portez-vous bien, Dimitri, Greg.
Merci
beaucoup.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
A little help from my friend.
Oh, 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 oh.
How do I feel at the end of the day?
Are you sad 'cause you're on your own?
I tell no, it's sad, no.